Interview.
Bienvenue sur RDWA 107.5 FM et sur le net www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Ugrain. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler du couple dans tous ses états, à l'occasion de trois week-ends qui sont organisés à Piégros-la-Clastre en février, avril et juin 2015. Ces week-ends seront organisés au centre de l'Aube.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur la structure? C'est une association?
Alors, c'est une association qui a été créée au départ par deux personnes, Louis et Mary Evely, en 1980 environ. Et puis, lui a disparu et elle a porté ce centre pendant un certain nombre d'années. Et puis, elle a un petit peu passé la main à maintenant, au début à moi, puis maintenant à une équipe.
D'accord. Une équipe de combien de personnes?
Une équipe, alors on est 6 à la tête de l'Aube. Et puis en dessous, avec nous, il y a bien heureusement plein de gens bénévoles qui nous aident parce que c'est une structure qu'il faut faire vivre. Donc il faut être assez nombreux.
C'est une structure qui a des salariés aussi?
Alors il y a une seule salariée.
D'accord. Oui. Comment vous avez débarqué là-bas?
Alors en fait, moi j'ai beaucoup développé de choses, puisque je suis gynécologue obstétricien, j'ai développé une approche de la naissance, de la fertilité surtout, du diagnostic anténatal avec les femmes qui perdent des enfants, la sexualité, la ménopause. Donc en fait, je voyageais d'un centre à l'autre et puis un jour je me suis dit que ce serait bien que je puisse poser mes valises à un endroit pour que la matière que nous mettions en place puisse mieux servir les week-ends que nous organisions. Et puis le hasard des choses a fait que j'ai rencontré Mary Evely et puis on est parti dans cette direction de porter l'Aube. Donc il y a toutes mes activités, mais il y a d'autres activités. Et je dirais, le but de l'Aube, c'est de favoriser le meilleur de l'homme, d'inciter l'homme au meilleur de lui-même, quelle que soit la forme que ça prend.
C'est ambitieux.
C'est ambitieux, oui, mais en même temps, on fait pas après pas. Et voilà. Donc on propose tout ce qui tourne, tout ce qui pourrait aider au meilleur de l'homme.
Vous avez posé vos valises là-bas il y a combien de temps maintenant?
Alors ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans que vous travaillez là-bas. Et auparavant, donc, un parcours de gynécologue classique?
Oui, en fait, moi, j'ai travaillé à Grenoble pendant 25 ans presque. Et j'étais surtout très intéressé par tout ce qui était la modernité, parce que l'obstétrique a fait des progrès fantastiques entre 1975 et 2000, puisque est arrivé le diagnostic anténatal avec l'échographie, toute la fécondation in vitro, toutes les techniques de procréation médicalement assistée, toutes les techniques chirurgicales de cellulochirurgie. Donc tout ça m'a passionné, mais en même temps j'avais une recherche personnelle qui m'a montré que aborder l'humain uniquement par la technique, c'était largement insuffisant et qu'il fallait justement rajouter tout l'aspect, la dimension intérieure, psychique, spirituelle, etc.
À vous entendre, est-ce que votre parcours n'est pas assez symptomatique de ce qui se passe justement aujourd'hui entre, il y a cette différence entre des avancées techniques incroyables et peut-être un accompagnement médical ou social un peu défaillant globalement dans
la
société?
Oui, alors moi j'ai eu, j'allais dire, le hasard des choses a fait qu'en même temps j'ai été très intéressé par tout ce qui était technique parce que de ce côté-là je suivais un peu l'influence paternelle puisque mon père était médecin-chercheur à l'Institut Pasteur. Et puis j'ai eu la chance de baigner dans un milieu de psychologie, de recherche intérieure par ma mère, qui était passionnée de psychanalyse avant l'heure. Donc voilà, pour moi, l'humain, il fallait toujours prendre en compte les deux aspects. Et c'est pour ça que c'était déjà un petit peu une imprégnation familiale. Et que je comprends en même temps que les médecins qui n'ont pas eu cette imprégnation et qui ont eu, par la faculté, une formation uniquement technique, n'envisagent pas d'aborder les choses selon les deux points de vue. C'est compréhensible parce qu'ils ne le savent pas ou qu'ils n'ont pas été formés à ça.
Est-ce que vous pensez que cet enseignement devrait être renforcé ou est-ce que ça devrait être justement le rôle d'autres personnes qui travailleraient en collaboration avec les médecins? Parce qu'effectivement, peut-être que tous les médecins n'ont pas cette fibre psychologique. Est-ce que dans la formation actuelle des jeunes médecins et gynécologues, ça devrait être inclus ou est-ce qu'au niveau structurel, on devrait...
Non, je pense qu'au niveau base, ça doit être inclus en grande partie, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire appel à des professionnels. Vous savez, en médecine, moi, je ne sais pas tout faire. Je sais faire la gynéco-obstétrique. Maintenant, après, si vous me demandez de soigner une anomalie pulmonaire, si ce n'est pas trop compliqué, ça va. Après, ça devient compliqué. Donc, il y a à l'intérieur des soins qu'on organise autour d'un être, d'abord différents types de médecine qui sont peut-être toutes respectables aussi, et puis différents spécialistes qui, ensemble, peuvent amener quelque chose qui soit plus complet. avec bien sûr une vision d'ensemble de l'être. Mais je crois que de toute façon, par contre, les médecins généralistes et les médecins même spécialistes devraient tous avoir une formation en psychologie et même un travail personnel intérieur. Pour une raison, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai le souvenir d'une femme qui était suivie en infertilité, qui était enceinte et qui avait perdu son enfant à 9 mois. Et les sages-femmes, à 2h du matin, m'ont demandé de venir expliquer à cette femme que son enfant venait de mourir. Et là, il n'y a pas de psychologue, il n'y a personne, on est tout seul. Donc si on n'a pas quelques rudiments de psychologie, si on ne sait pas un peu comment aborder l'humain, on est totalement dépassé.
C'est sûr.
Et que donc là, on est très souvent seul. Donc il faut qu'on puisse assumer au moins le démarrage. Après qu'il y ait des spécialistes, etc. et des équipes, c'est nécessaire, bien évidemment.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus quand même? Alors ça peut être souvent peut-être l'initiative personnelle des médecins que de se former en psychologie ou... Alors, vous avez l'impression que qu'il y a eu une prise de conscience globale chez vos confrères ou consoeurs?
Alors, au niveau individuel, je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça, parce que se mettre en route dans une démarche personnelle, ce n'est pas simple. Donc, par contre, ce que je vois faire, c'est que ce que je vois partout et maintenant, c'est que de toute façon, dans tous les centres, par exemple, de procréation médicalement assistée ou les maternités, il y a attaché un psychologue, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on voit bien que de plus en plus, l'aspect intérieur, l'aspect psychologique entre comme une condition nécessaire. Il y a des textes, en particulier autour de la maternité, qui ont été faits par les pouvoirs publics en 2005-2008 et qui le disent très clairement. Mais entre le moment où on en prend conscience et au moment où c'est efficace sur le terrain, c'est un peu plus long. Mais je crois que pour l'instant, c'est en train de se faire, mais c'est vraiment les balbutiements. Et pour moi, c'est totalement insuffisant. Il va falloir aller beaucoup plus loin parce que l'humain étant à moitié physique, à moitié psychique, il faut prendre en compte les deux à égalité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire on va, en cas de problème, avoir recours à un psychologue. Il faudrait aussi bien les professionnels que les patients qui prennent en compte les deux aspects. Mais encore faudrait-il savoir comment prendre en compte et faire cet effort. Or, si je prends l'exemple même de la grossesse ou de l'infertilité, le plus souvent, les couples ou les femmes n'ont pas tellement envie qu'on s'occupe de tout ça. Elles viennent pour un suivi de grossesse avec l'attention, etc. Quand elles viennent en infertilité, c'est « écoutez, je suis venu pour avoir un enfant, vous faites les procréations médicalement assistées, le reste, ça ne vous regarde pas ». J'exagère un peu le propos hein, pour faire sentir. Donc il y a quelque chose où on n'est pas tous encore convaincus, aussi bien les professionnels
que les patients,
qu'il faut vraiment prendre en compte les choses des deux points de vue, autrement c'est extrêmement dangereux.
Donc on est peut-être sur à mi-parcours.
On est en début de parcours.
Au centre de l'Aube, est-ce que vous avez déjà proposé des week-ends ou des stages spécifiques pour des docteurs ou des médecins?
Oui, on fait de la formation professionnelle. J'anime de la formation professionnelle avec d'autres médecins, sages-femmes aussi, bien sûr.
D'accord. Et puis, donc, les patients qui sont dans cette prise de conscience peuvent compléter leur parcours donc, au cours des week-ends.
Oui, on organise des choses pour l'infertilité, pour un peu leur expliquer tout l'aspect intérieur sur la grossesse, sur tout ce que je vous ai dit, hein, sur la sexualité, etc.
Comment les patients vous trouvent?
Ils me trouvent un petit peu parce que d'abord, j'ai écrit deux livres. Et puis, je fais des émissions en dehors de la vôtre aussi, donc sur RMC. Puis à force de faire des conférences, les gens me connaissent un peu. Mmh. Bon, je ne suis pas encore très connu. Hein.
Non, mais ce n'est pas la question, c'est de savoir comment les personnes...
Oui, et puis le bouche à oreille, vous savez, les gens qui sont venus, puis qui ont trouvé finalement cette approche leur faisait du bien, ils en parlent autour d'eux, et du coup, ça fait un petit peu connaître ce qu'on fait.
Mmh. Donc, le couple dans tous ses états, c'est une série de 3 week-ends, donc le premier le week-end prochain.
Les week-ends sont indépendants, hein, ça, c'est quelque chose.
C'est ce que j'allais poser voilà. comme question. Oui, voilà. C'est pas un cycle de 3 week-ends.
Non, c'est pas un cycle, c'est des week-ends indépendants. On peut venir à un seul week-end, on peut venir à deux si on veut, mais c'est des week-ends indépendants.
D'accord, donc je vais repréciser les dates. Donc, ce sera les 7 et 8 février, 11 et 12 avril et 27 et 28 juin à Piégros-la-Clastre. Vous accueillez jusqu'à combien de personnes?
Oh, je pense qu'on va pas dépasser une vingtaine parce qu'en dessus de 20, le contact est plus compliqué individuellement.
Alors le couple dans tous ses états, le couple c'est pour qui? Le couple c'est quoi? Moi je me disais, est-ce que vous pouvez, si parmi ces vingtaines de personnes, il y a un jeune couple de 25 ans et un couple qui a une soixantaine d'années, quels couples viennent et comment vous abordez les différents couples qui... Alors ça peut être aussi des jeunes couples dans le sens ensemble depuis pas très longtemps. Comment vous travaillez, comment vous appréhendez avec eux cette hétérogénéité dont je suppose qu'elle existe?
Tout à fait. Alors ça ne pose en fait concrètement pas de problème. Pourquoi? Parce que on va dans le dans les explications, dans les aspects théoriques, je leur montre toutes les étapes du couple telles qu'on les a identifiées. Et donc chacun peut revoir les étapes qu'il a traversées, plus ou moins heureusement, parce que rien ne s'est passé jamais de façon magnifique. Et donc prendre conscience de où est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu en déséquilibre, où est-ce que les choses sont en équilibre. Et donc retraverser à travers ces explications, cet aspect théorique, faire un point de sa vie, un point du bilan de son couple. Et après ça, bien sûr, ça va aller vers des questions individuelles liées, comme vous le disiez, à la spécificité de l'âge de chaque couple.
Parce que le couple a pas, les couples ont changé. Comment vous êtes documenté, vous, par rapport à cet aspect un peu théorique? Le couple n'est pas perçu de la même manière aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus sur une vision un peu de partenaire, d'une association, alors qu'avant, c'était peut-être quelque chose de moins choisi?
Oui, en effet, il y a une grande évolution et cette évolution, elle a différentes raisons. Elle a d'abord une raison, c'est que il y a eu un rééquilibrage, on va dire, au niveau homme-femme, c'est-à-dire que la femme est maintenant libre, beaucoup plus libre qu'avant parce qu'elle travaille, parce qu'elle gagne elle-même son argent, sa liberté. Elle est beaucoup plus libre par rapport aux enfants grâce à la contraception. Donc il y a un rééquilibrage qui s'est fait et aussi au niveau du plaisir sexuel qui a beaucoup évolué depuis 1960. Le plaisir de la femme est devenu quelque chose d'important alors qu'avant c'était assez secondaire dans la conception de la sexualité. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu un équilibre qui s'est fait différent d'avant et qui a en même temps un nouvel équilibre et en même temps ça a produit une certaine perte des repères habituels. Ça, plus le fait que nous vivons beaucoup plus vieux et en très bonne santé, fait que du coup les repères ont changé et en particulier le but du couple. Puisque le but du couple pendant très longtemps c'était les enfants, la stabilité et la transmission du patrimoine. Or ces choses ont été un peu revues et actuellement c'est chacun cherche le bonheur, cherche le plaisir, cherche à être bien. Et que si le bonheur n'est pas au rendez-vous, on remet tout en cause. Il y a un certain nombre de générations, c'était pas possible, même si c'était peut-être pas au départ des grands amours, c'était quand même des amours avec une certaine stabilité, une certaine tendresse dans le couple. D'ailleurs, il ne faut pas s'imaginer que c'était moins bien forcément, mais il y avait des liens qui étaient plus forts, en ce sens que peut-être plus sociaux. C'était pas bien de divorcer, c'était pas bien d'avoir des expériences extra-conjugales. De nos jours, ça, c'est plutôt quelque chose qui est amusant, mais on n'est pas mis à l'index parce qu'on divorce ou parce qu'on a des rapports extra-conjugaux. Voilà. Donc les choses ont évolué dans la pensée du couple, en effet.
Alors, le couple dans tous ses états, vous balayez avec les personnes qui viennent assister à ces week-ends les différents états du couple. Qu'est-ce que vous désignez par ce terme « état » ?
Alors, si vous voulez, je crois que moi, ce qui m'a beaucoup manqué quand je me suis marié, c'est qu'on m'a expliqué un petit peu les étapes du couple. Et il y a l'état le plus fréquent au début, c'est le coup de foudre. C'est-à-dire qu'un amour très, très innocent, mais très, très jeune, très adolescent, et qui s'imagine qu'on va avoir un grand amour et qui va durer toute la vie, et qu'on va, pas du tout se retrouver confrontés aux difficultés qu'ont eu nos parents, mais que voilà, on a une espèce de symbiose auquel on croit, et qui va vivre toute sa vie selon ses critères.
Parce qu'il est véhiculé largement dans l'imaginaire collectif. Exactement. Et ça fait des dégâts.
Ça fait des grands dégâts. Alors que si on dit, en effet, c'est souvent la première étape, il y en a une après, c'est qu'on découvre que nous ne sommes pas parfaits et que l'autre est imparfait aussi. Et que c'est à partir de là que peut-être commence vraiment l'amour humain. L'amour, un peu, ce que j'appelle l'amour Père Noël, c'est croire que l'autre est parfait et que nous sommes parfaits et que nous allons vivre une idylle. C'est très enfantin. Mais on y croit quand même au début. Moi, j'y croyais. Et si dès le départ, avant de se lancer dans la grande aventure magnifique du couple, mais difficile, on était averti des étapes et des difficultés qu'on rencontre et comment les franchir, je pense que ce serait une grande aide et c'est pour ça que nous développons ces week-ends. Donc cette première étape passée, eh bien, on découvre à travers des petites choses que l'autre nous agace. Parce qu'il a traîné ses chaussettes, parce qu'il a oublié de mettre les clés de la voiture à l'endroit où on avait décidé, parce que plein de petites choses. Et que nous sommes aussi, nous, imparfaits. Et que c'est à partir de là que le couple peut se construire ou se détruire. C'est-à-dire que dans la première partie du couple, c'est ce que j'appelle le prince et la princesse charmante. Et que si on y prend garde, le prince et la princesse charmante prennent quelques taches de vert de gris et deviennent de plus en plus Fécarabos et prince noir. Et ça se termine par une rupture. Et ce qui est très, très, très choquant, je trouve, c'est que alors qu'on s'est dit des mots d'amour, alors qu'on s'est promené la main dans la main, eh bien là, on est capable de se déchirer, de mettre les enfants au milieu, comme si cet amour qui n'avait pas abouti était capable de produire des haines immenses. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'on essaye d'apprendre au couple les lois du couple et à rester ensemble, c'est bien, mais qu'on leur apprenne aussi à se séparer proprement, c'est bien parce que beaucoup se séparent. Il y a au moins un couple sur trois qui divorce. Globalement, entre ceux qui restent ensemble mais qui ne vivent plus vraiment ensemble, on peut dire qu'il y a un couple sur deux qui boite beaucoup donc, et qui va peut-être se séparer. Et donc, il faut aussi apprendre à se séparer proprement.
Les gens qui viennent sont globalement en situation de crise, enfin sur les week-ends que vous proposez, ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent sereinement dans une, pour faire avec vous un bout de chemin qu'ils ont entrepris de leur côté
Écoutez, il y a eu les deux cas de figure en fait. Il y a des gens qui sont venus, alors pas en grande crise, parce que quand ils sont en grande crise, ils n'ont même plus envie de venir un week-end ensemble, ils s'arrachent la gueule, donc ça c'est plus possible. Mais il y a eu aussi des couples qui venaient au tout début pour comprendre comment ça marchait. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important qu'au début, le couple se pose la question de qu'est-ce qui m'attend et ne s'illusionne pas. Donc on avait différentes choses. Et puis des couples qui avaient envie d'approfondir leur amour, qui s'aimaient, mais qui voulaient passer une autre dimension. Donc on a eu au moins ces trois cas.
Ce qui est plutôt une vision, enfin c'est très positif.
Très encourageant, extrêmement encourageant.
Que des gens viennent avant la crise et justement pour éviter la crise.
Ou même en début de crise, qui viennent en début de crise. Parce que là, ils comprennent, ils peuvent faire le point justement sur un week-end de où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui se passe. Et puis je pense qu'à partir du moment où il y a une bonne volonté de part et d'autre, c'est pas compliqué de les mettre l'un en face de l'autre et de leur dire, bon, alors maintenant, chacun va dire son monde. Pas en accusant l'autre, en disant, ben voilà, moi je souffre de ça. Et toi, tu souffres de quoi? Et en fait, on le construit dans le week-end, cet instant-là. Le samedi, on les met ensemble, je les prépare psychologiquement pour qu'ils soient en paix et qu'ils ne se disent pas des choses qui vont créer des guerres inutiles. Mais on leur propose vraiment un moment où ils vont être sincères, se confier, transformer leur douleur en confidence à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort dans le couple.
C'est aussi la possibilité pour eux de créer un espace de parole qui n'existe pas dans le quotidien.
Ou
pas
ou qu'ils n'ont pas su créer et qu'ils pourront recréer parce qu'ils l'ont expérimenté dans ce week-end. Ils pourront ensuite le répéter chez eux, le remettre en place chez eux.
Notamment, je pense aussi aux questions de la sexualité qui fait partie inhérente du couple, qu'elle soit d'ailleurs absente ou présente.
Oui.
On constate que dans notre société, il y a très peu de lieux où parler de ça. C'est quelque chose dont on parle difficilement avec ses amis, avec sa famille. J'imagine que c'est une des préoccupations de la plupart des personnes qui ont recours à vos stages,
bien sûr,
à vos conférences.
Oui, c'est une partie extrêmement importante de la vie du couple. Alors, c'est vrai que dans ces week-ends, un week-end c'est quand même court, on n'a pas le temps d'aborder toute la sexualité, mais là, je propose aussi d'autres types de week-ends sur la sexualité, justement, où là, ils peuvent venir pour vraiment rentrer dans cette fonction, comprendre comment ça marche, et puis la faire évoluer pour que, justement, il y ait un meilleur épanouissement du couple, de la personne et du couple. Donc c'est très, très important. Mais dans les week-ends couples, on l'aborde de façon assez succincte. Et ensuite, s'ils veulent, ils peuvent l'approfondir. Et c'est en effet très important.
En tant que gynécologue, c'était des questions qui étaient parfois présentes chez vos patients ou patientes?
Oui, mais alors, si vous voulez, moi, je fonctionne en même temps en fonction de mes propres préoccupations. Mmh. C'est-à-dire que je me souviens très bien que j'avais une question, quand j'étais même jeune, adolescent, j'avais 15 ans, 16 ans, et je me disais... comment se fait-il que la sexualité soit aussi bonne pour le corps, et puis qu'il y ait un tel mépris, un tel dégoût, un tel jugement contre, une telle gêne, on va dire. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et puis c'est petit à petit que j'ai compris qu'en fait, on était construit psychiquement à partir d'un choc plaisir-honte, et que c'est ça qui crée cette difficulté. C'est-à-dire que si je vous parle de la fonction pulmonaire, de la fonction cardiaque, locomotrice, ça ne fait pas grand-chose. Si on dit on va parler de sexe, tout de suite ça... L'être se dit, tiens, c'est en même temps excitant, en même temps intéressant et en même temps, on est un peu mal à l'aise. Et cette chose qui est spécifique à la fonction sexuelle est due à un moment de la construction de nos êtres qu'on appelle les traumatismes, où l'enfant a été confronté au plaisir-honte et qu'à partir de là, pour des raisons précises et utiles, il ne faut pas penser que c'est inutile. Là, je n'aurai pas le temps de m'en expliquer, mais c'est extrêmement important qu'il y ait eu ce traumatisme. Autrement, on ne pourrait pas avoir une vie sexuelle qui s'épanouit.
Oui, parce que derrière cette question de plaisir-honte, est-ce que chez l'adulte, il n'y a pas aussi une volonté de garder une part de mystère? Est-ce que le fait qu'on taise tellement la sexualité, ce n'est pas aussi pour préserver quelque chose de... le côté mystérieux qui est parfois attenant à cette pratique que nous avons tous?
Oui, alors... Le côté mystérieux, je ne sais pas si c'est vraiment préserver le côté mystérieux. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, ça touche une zone extrêmement intime. C'est une grande confidence physique et psychique, la sexualité. Et que de ce côté-là, en effet, il y a des choses qui ne peuvent pas être partagées en dehors du couple. Donc ça, c'est la partie qui doit être respectée. Mais il y a en même temps une gêne qui fait qu'on n'aborde pas les choses vraiment. Et que si on ne les aborde pas, eh bien, on ne peut pas comprendre comment ça marche et puis faire évoluer notre propre sexualité. Et ça, c'est un aspect qui est en train justement d'être dépassé et je pense que c'est une bonne chose.
Do it again. I may say no, 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 but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Oh, no one is near. I may cry. Oh, oh, oh. But no one will hear. Mama may scold me. She's told me it is naughty, but then, oh, I'd do it again. Please do it again.
Do 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 do.
Just ache
to have you take the kiss
that's waiting for you.
You know if you do.
Mama may scold me,
'cause she told me
it is naughty, but then, oh, do it again, please.
Do it again.
Alors après, la sexualité n'est pas l'unique élément du couple, loin s'en faut. Vous travaillez aussi beaucoup sur la parentalité. Y a-t-il beaucoup de couples qui se perdent dans la parentalité en confondant ces deux fonctions? Est-ce que ça fait aussi partie des... Alors je ne vais pas dire pathologie, ce serait pas gentil et inapproprié, mais est-ce que vous discernez dans les personnes qui viennent vous voir, est-ce que ces deux faits, la sexualité et la parentalité, sont parmi les problèmes majoritaires des gens qui suivent vos
Alors,
conférences
la parentalité, elle va poser surtout en début de parentalité, quand l'enfant vient d'arriver, ça déséquilibre énormément toute la vie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, un petit est là, à partir du moment où l'accouchement a eu lieu, et 24 heures sur 24. Et que donc ça va déstabiliser la vie du couple, donc la sexualité, la vie personnelle, parce qu'en dehors de, que ce soit pour une femme, être mère, femme, et aussi avoir un secteur d'épanouissement personnel, c'est nécessaire. Pour un homme, avoir aussi être père, être homme, c'est-à-dire relation sexuelle avec sa partenaire, et puis avoir un secteur d'épanouissement, c'est nécessaire. Et ce qui se passe en effet, c'est avec la parentalité, très souvent, La présence de l'enfant ou des enfants prend tellement de place que les parents ne savent pas mettre les choses à leur place, régler ces trois nécessités évolutives et pour s'épanouir, et que donc il y a des déséquilibres qui s'installent, et que ça c'est extrêmement important d'essayer de les conseiller pour rééquilibrer les choses. On ne peut pas être simplement mère parce qu'on fout en l'air son couple et on fout en l'air sa vie personnelle. On ne peut pas être simplement un bon professionnel parce qu'on fout en l'air sa vie amoureuse et on fout en l'air sa vie de père ou de mère. Donc il y a un équilibre extrêmement important et comme vous le disiez, la parentalité peut déséquilibrer ça et c'est très extrêmement important de se poser devant et d'essayer petit à petit par des actes précis de rééquilibrer. C'est ce qu'on propose aussi avec les couples qui viennent en parentalité dans le cadre d'une association qui s'appelle Les Drôles de Maman, qui est une association de patients ou de couples, on va dire, qui ont eu des enfants accompagnés par ce que nous développons et qui ont poursuivi ça dans le postnatal et dans la parentalité, à tous les âges de la parentalité.
Sauriez-vous me dire si ces questions-là, ce sont des questions qui se posent de manière un peu nouvelle, voilà, sur la fin du XXe siècle au XXIe siècle, et que c'était des questions qui se posaient moins avant du fait de la construction sociale, avec des noyaux familiaux plus affirmés, plus solides, des formes d'expression différentes, de dialogue différentes. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que vous pensez que la génération de nos parents et nos grands-parents ont vécu, ont traversé cette période sans béquilles ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça, c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, la modification du couple et du rôle de la femme.
Oui.
Mais avant, vous pensez que les gens avaient il y avait quelqu'un pour en parler avec eux ?
Ben, c'est-à-dire qu'avant, il faut comprendre les enjeux de la vie selon les époques. Et dans l'après-guerre, on va dire, donc, dont je suis issu, les enjeux, c'était arriver à avoir une vie matérielle stable, arriver à permettre aux enfants qu'on avait de se développer et d'avoir un métier. Donc on est très axé sur l'extérieur. C'est comment ne pas avoir froid l'hiver, comment manger à sa faim, comment avoir suffisamment d'argent pour matériellement être bien. Et que donc c'était tellement préoccupant que c'est des gens qui travaillaient énormément et qui n'avaient pas trop le temps encore de penser aux vacances. Et les vacances sont venues petit à petit, vous savez, les congés payés, tout le monde sait bien
c'est
pas si vieux que ça. Et donc toute cette notion du vacances, du bien-être, du confort, tout ça c'est venu assez tardivement. Et donc c'est normal que maintenant on se pose la question pour soi et puis pour son enfant et de ne pas penser qu'il suffit d'avoir un équilibre matériel pour être bien. Il faut aussi que le psychisme, que l'épanouissement de l'être se fasse. Et donc que petit à petit, ces deux choses soient maintenant conjointes pour le souci que nous avons pour nous-mêmes et pour les autres et pour l'accompagnement, me paraît historiquement normal. Quoi.
C'est une étape logique. C'est une étape logique.
C'est une étape logique.
Est-ce que vous avez déjà accueilli des couples homosexuels ?
En préparation à l'accouchement, oui, mais autrement, très très peu, non. Non, j'ai pas, je connais pas. Dans tout ce que nous avons fait, j'en ai eu très très peu.
D'accord. Sur le couple dans tous ses états, donc comprendre les enjeux de la vie à deux, ça c'est revenir, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les différentes étapes pour renforcer la relation de couple. Renforcer la relation de couple, vous leur donnez des outils particuliers, vous travaillez sur des méthodes avec eux ou ça passe uniquement par cet espace de parole et de liberté qui est donné ?
Non, il y a des outils aussi. Il y a des outils, c'est-à-dire, par exemple, si on prend les contrariétés, les petites contrariétés du couple. Là, je vais être obligé de vous expliquer deux, trois petites choses pour que tout le monde comprenne. C'est que l'humain, il a une chose très particulière. C'est qu'il s'imagine que ce qui compte, c'est le monde extérieur, c'est l'acte, c'est ce que nous avons fait. Mais avant que nous fassions quelque chose, il y a un processus intérieur qui a eu lieu auquel nous n'avons le plus souvent pas accès. C'est-à-dire que nous percevons quelque chose. Cette perception produit un enchaînement de pensées. Ces pensées produisent une décision et cette décision produit un acte. Et que très souvent, on discute des actes dehors, alors que tout le processus qui a précédé, on n'en a pas conscience. Or, le problème commence, comme je vous le disais, avec la perception. Et la perception de l'humain, l'humain croit qu'il perçoit le monde, mais il ne perçoit pas le monde. Il perçoit le monde à travers son histoire. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust, par exemple, qui, avec l'odeur de la Madeleine, retrouve l'amour de sa grand-mère. Mais la Madeleine ne contient pas l'amour de la grand-mère. L'histoire, oui. Et si on comprend ça, alors on comprend comment fonctionne l'humain. Et que chaque fois que nous avons un avis sur quelque chose, chaque fois que nous pensons, chaque fois que nous percevons, nous le faisons, on va dire, en majorité du temps, par rapport à une perception liée à notre passé. Si on comprend ça, ça veut dire que nos douleurs présentes ne sont présentes que parce qu'elles évoquent un passé. Par exemple, si la grand-mère de Proust avait été acariâtre et l'avait battue, il aurait trouvé l'odeur de la Madeleine horrible. Et donc, ce n'est pas la Madeleine qui est en cause, si on le comprend. Une femme, si je prends des exemples plus de mon métier, une femme qui a fait une fausse couche, quand elle devient enceinte pour la deuxième fois, elle a une peur bleue de faire une fausse couche, alors que matériellement, médicalement, il n'y a aucun risque supplémentaire. Donc, on voit bien que ce passé récent produit une douleur dans le présent qui n'est pas liée à la réalité de l'événement. Si, dans mon expérience, c'est une réalité extrêmement profonde, ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que si je regarde moi-même comment je fonctionne, je vois que tout le temps je fais ça. Et si je n'ai pas un outil pour passer d'inventer le monde à voir le monde, alors j'ai aucune chance de vivre avec les autres. Or, le couple est fait pour apprendre à passer d'inventer le monde à voir le monde. Et d'avoir donc de la tendresse pour soi, celui qui invente le monde, et de la tendresse pour l'autre qui invente le monde lui aussi. Et parce qu'on passe d'inventer à voir le monde, alors on peut se retrouver. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de développer cet outil, mais il y a un outil précis pour faire ce travail-là. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans tout ce que j'ai développé, c'est m'apercevoir comme la grossesse propose ça spontanément. Monique Bidlowski, qui a écrit sur le début de la grossesse, parle de la transparence de la grossesse, de ce travail psychique qui se met en route, cette réconciliation avec le passé, avec son propre passé. La grossesse est l'endroit où est déposé, un endroit où est déposé le mystère de la réconciliation. Et se réconcilier, c'est se réconcilier avec son histoire douloureuse. Et que si, par exemple, si je reprends l'image de Proust, sa grand-mère était une femme méchante, s'il avait trouvé l'apaisement par rapport à la douleur de ce passé avec cette grand-mère et le jour où il y avait cette Madeleine, s'il avait trouvé la tendresse et les mots de consolation pour lui-même et qu'il avait compris le monde de sa grand-mère, ça n'aurait pas enlevé l'événement lui-même dans ce qui s'était passé, mais ça aurait fait lire l'événement selon une autre maturité et comprendre le monde de l'enfant et le consoler et comprendre le monde de l'adulte et ça enlève l'aigreur dans le passé. Le but, c'est pas de changer le passé, on peut pas. Le but, c'est de comprendre à travers une nouvelle maturité.
Les fins de week-end doivent être plutôt heureuses.
Oui, c'est magnifique.
Vous devez terminer avec plein de gens en pleine forme.
Oui, exactement. Oui, c'est vrai, c'est très touchant, oui. C'est notre bonheur d'ailleurs, de les voir repartir heureux ensemble, c'est magnifique.
Il faut faire des photos de groupe à ce moment-là. Il y a encore de la place pour le week-end prochain ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est bientôt, hein, c'est dans quelques jours.
C'est ça, oui.
Il faut aller vite.
Diwa.
Surtout qu'il faut le temps qu'on organise matériellement les choses. Donc.
Dépêchez-vous si vous voulez profiter de la première session des week-ends sur le couple dans tous ses états, en contactant donc le centre de l'Aube, dont vous retrouverez l'adresse internet sur le site, mais je la redonne ici, c'est le www.aube-association.com. Il est encore temps, et sinon ce sera pour les sessions suivantes. Vous avez envie de continuer à faire ça tout le temps ?
Ah oui, tout ce que je fais, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est tellement magnifique que quand les couples terminent ce week-end et qu'on les voit bien ensemble, beaucoup mieux que quand ils sont arrivés, que c'est un vrai bonheur. Mmh. Oui. Donc que ce soit avec les couples ou dans la sexualité, ou enfin tous les stages que nous faisons, oui, j'ai aucune raison de penser m'arrêter. Et puis de toute façon, je ne le fais pas seul, hein, j'ai des professionnels avec moi donc qui sont capables de prendre la suite, même si moi j'étais un peu défaillant, donc il n'y a pas de problème.
Oui, défaillant ou débordé.
Défaillant, fatigué, malade, j'en sais rien, tout le monde ne sait pas ce qui peut arriver. Puis fatigué.
Y a-t-il autre chose que vous voudriez évoquer ?
Oui, c'est-à-dire que je crois que dans toute l'aventure du couple, il y a bien sûr la période dont on a parlé, qui est la période de l'amour un peu idéalisé, du coup de foudre. La période un peu plus complexe qui est plus mûre, qui est un amour humain, c'est apprendre à travers les petites contrariétés de la vie quotidienne à se connaître soi-même, à s'apaiser soi-même et s'apaiser avec l'autre. Mais il y a aussi d'autres dimensions et qui commencent avec l'enfant d'ailleurs. C'est que avec l'enfant, on est quelquefois devant des questions, on ne sait pas comment il faut décider les choses, comment décider. Et je crois que si on est deux au chevet de cette décision, on est plus fort que seul. Et il ne s'agit pas dans le couple de donner un avis contre l'autre. C'est pour ça que là, on est obligé de dépasser notre histoire. Parce que par exemple, je prends un exemple simple. Si, parce que je l'ai vu de nombreuses fois dans mon cabinet, si une femme... est enceinte et elle vient me voir en début de grossesse, très souvent, elles me disent « Ah ben, vous savez, moi, j'ai mon enfant qui arrive, mais alors, mes parents, ils ont fait ça avec moi, moi, je veux pas du tout, parce que j'ai beaucoup souffert, je vais faire pas du tout ça, je vais faire autrement. Par exemple, moi, j'ai été trop couvé, mes parents, ils étaient tout le temps avec moi, j'étais fille unique, ils voulaient jamais me laisser libre, je pouvais pas sortir, moi, je vais continuer à travailler, je vais laisser mes enfants libres, bon, je serai là quand même, de temps en temps. » et que c'est une réaction à un passé douloureux. Parce que de l'autre côté, j'ai eu 15 jours après une femme qui m'a dit l'inverse, qui m'a dit, vous savez, moi, mes parents n'étaient jamais là, ils travaillaient, moi je vais m'arrêter, je vais être tout le temps là, rassurez-vous, je vais les entourer, je ne manquerai jamais. Et donc on voit bien que ce passé douloureux produit une façon de se comporter dans le présent qui n'est pas juste. Et que s'il n'y a pas un apaisement par rapport à ce passé douloureux, il y a une décision par rapport à l'enfant qui est fausse. Et je crois que ce travail est de toute façon nécessaire, il est nécessaire de le mettre en route pour déjà régler l'entente du couple, mais que c'est encore plus nécessaire pour l'enfant. C'est-à-dire qu'à deux, on sait quand l'autre est un peu en danger parce que ça le touche trop profondément et que donc ce qu'il va dire et faire va être un peu en réaction avec son propre passé. Et que là, on peut vraiment s'entraider si on est dans la tendresse l'un avec l'autre. Et puis je crois qu'il y a encore une autre dimension du couple qui est extrêmement importante, c'est qu'au-delà de ça, une fois que cet entraînement sera fait de se mettre à deux au chevet de cet enfant, au chevet entre guillemets, il y a une autre dimension, c'est que tout à l'heure je vous disais dans l'évolution d'un être, il y a l'homme et la femme, les amoureux, on va dire. Il y a le père, la mère. Et puis il y a aussi le secteur d'épanouissement personnel qui peut passer par le métier, qui peut passer par l'art, qui peut passer par une passion, par un hobby, etc. Et puis il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça, qui est quelque chose qui est fondamentalement inscrit en nous, c'est quelque chose qui nous est extrêmement important, ce qu'on peut appeler la légende personnelle de Paulo Coelho, la tâche, ce qui nous importe, ce pourquoi nous sommes faits. Et qu'il y a un moment dans l'histoire du couple où le métier est moins important, tout ça perd un peu d'importance et qu'on a envie d'accomplir sa vie, de pas plus de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Et que là, si ce couple a mûri, il y a une entraide profonde qui peut avoir lieu. Dans l'essentiel, c'est « écoute, je vais t'aider à t'accomplir et tu vas m'aider à m'accomplir ». Et c'est pas « je te garde avec moi », c'est « je t'aide à t'envoler ». Mais ça ne veut pas dire que le couple est remis en cause. Et cette dimension, elle est possible, et c'est une des plus grandes dimensions du couple, dans la mesure où on a franchi les étapes précédentes.
Dans la plupart, dans ce que vous exposez, j'entends aussi, on a parlé du changement du rôle de la femme, du rôle de la mère, de l'importance de travailler ça. C'est aussi un grand bouleversement au niveau du rôle de l'homme.
Bien sûr.
En tant que père, compagnon. C'est vrai que du coup, il est un peu tu dans ce qu'on a dit, alors qu'il est aussi fondamental que ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a aussi des... est-ce que vous avez déjà du coup proposé des week-ends ou des stages qui soient spécifiques uniquement pour ces messieurs ?
Alors dans la préparation que nous faisons à l'accouchement ou dans la parentalité, il y a des ateliers spécifiques pour eux, c'est-à-dire que où les femmes ne viennent pas, c'est un jeu, c'est-à-dire c'est un peu entre jeux entre eux aussi, mais où les hommes peuvent s'exprimer librement entre eux avec bien sûr un professionnel ou quelqu'un de notre équipe. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça leur permet de dire les choses selon leur monde et de mettre face au groupe leurs douleurs, leurs difficultés et là aussi de trouver de l'entraide. Donc, c'est très important. Oui. Alors, si vous voulez, le problème de l'homme dans tout ce qui est la parentalité, c'est que pour des raisons historiques de sécurisation de l'accouchement et pour la mère et pour l'enfant, il avait été mis de côté. Mais de plus en plus, on le sait, et dans ce que je développe et ce que nous développons, c'est extrêmement important, c'est que le rôle de l'homme est extrêmement essentiel dans la grossesse, dans l'accouchement, dans la parentalité, et que ce n'est pas parce qu'il n'est pas concerné physiquement, parce que le fait qu'il ne va pas ni accoucher ni naître, qu'il n'est pas concerné au moins autant, si ce n'est plus, au moins on va dire à égalité, parce que c'est un choix beaucoup plus libre. Mais ce choix libre, il est extrêmement important à faire parce que, si vous voulez, la place qu'il a à l'intérieur de la triangulation homme-femme-enfant fait que ce qu'il va dire et faire va être entendu comme personne. Parce que comme pour cette femme, c'est celui en qui elle fait confiance, cet enfant, c'est celui en qui il fait confiance, ce qu'il va dire et faire pour aider dans l'accouchement, pour aider dans la parentalité et puis pour prendre sa place dans la parentalité est essentiel. Là, c'est un point extrêmement important que nous développons dans les week-ends parce que jusque-là, justement, la place du père était un peu négligée, secondaire, ce qui est très dommage dans l'expérience.
Oui, puis sinon, tout ce qui a été fait par rapport à la mère, dans son propre, ce que vous évoquiez tout à l'heure, par rapport à son passé, ça devient caduque si l'homme ne travaille pas.
C'est-à-dire que
aussi,
lui aussi...
Il ne sait pas travailler au sein du couple.
Oui, lui aussi, il a à se poser la question, c'est quoi être père, c'est quoi une famille, il a tous ses repères à lui, il faudra aussi mettre au clair.
Et pour les couples qui ne sont pas parents, est-ce que ça, enfin, ils se sentent un peu isolés au sein de, ils peuvent se sentir isolés au sein de ces week-ends parce qu'il y a une partie de ce qui est proposé qui manque. Est-ce que...
Alors, ceux qui sont pas parents et qui viennent, c'est d'abord souvent, il y a deux cas. Soit c'est qu'ils veulent être parents. Et ils voudraient un peu être avertis avant des étapes, et je trouve que c'est extrêmement important. Ça. Et l'autre, c'est ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc on leur fait à ce moment-là des modules un peu spécifiques, mais ils viennent parce que justement ils souffrent de l'absence d'enfants, et ils voudraient essayer d'y voir clair par rapport à ce désir d'enfant, qui est quelque chose d'extrêmement grave dans le cœur, dans l'âme d'un être, parce que ça touche des forces très très puissantes, donc il faut traiter ça avec une grande attention, et c'est tout un autre secteur de ce que je développe.
D'accord, mais pas de cas, vous n'avez pas accueilli de personnes dont la non-parentalité du couple était un choix ?
Si, bien sûr. Il y aura deux cas de figure, c'est-à-dire que dans l'absence d'enfants, il y a deux cas. Il y a ceux qui en souffrent et ceux qui n'en souffrent pas. C'est pour ça que traiter, on va aller sur un autre sujet, mais traiter le problème de la fertilité ou de l'infertilité que d'un point de vue technique, c'est un peu une folie. Parce qu'en fait, d'abord, dans les couples qui n'ont pas d'enfants, il y a ceux finalement qui ne posent pas de problème, et donc eux, ils ne consultent pas, ils n'ont pas de souffrance par rapport à ça. Ils vont épanouir leur vie d'une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'ils sont handicapés, ça veut dire qu'ils vont passer par d'autres modèles, mais qui peuvent avoir une vie au moins aussi épanouie
oui,
que n'importe qui.
J'en doute pas.
L'autre cas, c'est ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent, se précipiter dans une technique de procréation médicalement assistée, c'est un peu dangereux parce qu'on n'a pas identifié la souffrance. Et la souffrance est très variable. Déjà dans le couple pour l'homme et pour la femme, et pour les femmes, les différentes femmes qui souffrent, on va dire, de cette infertilité, les causes douloureuses sont très très différentes. Et si on n'identifie pas la cause profonde, alors on joue au loto, on joue la roulette russe, si vous voulez. Et jouer à la roulette russe, c'est quand même très très dangereux quand on parle d'une vie.
Ce qui nous ramène un peu aussi aux considérations du début de l'interview, est-ce que par rapport à l'accompagnement de ces couples confrontés à des problèmes de fertilité, il y a davantage d'accompagnement aujourd'hui au niveau psychologique ?
Alors ça, c'est un sujet justement qu'on a développé hier sur RMC avec Brigitte Lahaye. Non, pour l'instant non, mais pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'il y a en effet un psychologue attaché à ces services, mais j'allais dire, c'est considéré comme voilà, un rendez-vous peut-être souhaitable, quelqu'un sur lequel on s'appuie quand il y a des problèmes, mais pas une prise en charge, comme je l'entends moi en tout cas, à part égale, c'est-à-dire où on prend en même temps en compte totalement la partie physique, la partie diagnostique de l'infertilité médicale, etc. Et puis totalement l'aspect humain, l'aspect de la douleur de l'être. Mais vous comprenez que là, on est en même temps limité d'abord par le fait que les médecins n'ont pas été formés et qu'il n'y a pas des équipes suffisamment structurées, à mon sens. Et l'autre chose, c'est que les couples ne sont pas habitués à cette démarche. C'est-à-dire qu'un couple qui vient, il vient pour avoir un enfant. Et quand on lui dit peut-être ce serait intéressant de se pencher sur tous les aspects humains, les aspects profonds de cette douleur, ils aiment bien qu'on évacue la question et qu'on revienne à quand est-ce qu'on commence la fécondation in vitro. Et je le dis d'autant plus que j'ai organisé des rencontres quand j'étais à Grenoble avec tous les couples. On avait beaucoup de couples qui venaient nous voir puisqu'on était un centre important dans la région à cette époque-là. Il y en avait très peu. Et il y en avait très peu. Finalement, il y avait très peu de couples qui acceptaient de faire la démarche. Donc on voit bien que ce n'était pas non plus dans les mentalités. Alors les mentalités évoluent, mais ce n'est pas encore tout à fait en place.
Vous vous sentez militant de cette cause ?
Alors militant, oui. Alors moi, je suis un militant qui essaye de développer quelque chose, mais qui n'est pas contre le reste. Donc c'est un militantisme très tranquille et qui dit, ben voilà, je m'aperçois qu'il manque ça, je le comprends et j'essaye de le mettre. Mais je ne fais pas de guerre, je ne fais pas
non,
de...
Non, mais le fait de faire, c'est voilà. Une forme de militantisme.
Voilà, c'est un militantisme qui essaye de mettre en place...
C'est faire exister ce que vous souhaiteriez qu'il
voilà.
existe...
Voilà, c'est exactement ça.
Un peu partout. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur
Merci
Rey,
à vous.
Pour toutes ces informations et ces éclairages sur le couple. Je rappelle donc qu'il s'agit de 3 week-ends intitulés « Le couple dans tous ses états », donc pour décrypter les différentes étapes de la vie du couple, développer des outils pour pouvoir vivre dans le couple, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que parent. Ce sera donc les 7 et 8 février, les 11 et 12 avril et les 27 et 28 juin 2015 au Centre de l'Aube à Piégros-Laclast. C'était Thaïs pour RDIWA sur le 107.5. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.